Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Storia Voce de nos grands entretiens. Symbole de tant de causes, prétextes politiques, emblèmes, Jeanne d'Arc est souvent, hélas peut-être, réduite à un porte-étendard, tant dans sa propre histoire, elle serait un ornement des armées fidèles à Charles VII, on pense même qu'elle n'aurait pas existé, mais elle peut également être réduite à un porte-étendard dans son instrumentalisation post-mortem. Sauf que Jean d'Alençon, compagnon et ami de Jeanne d'Arc, dit d'elle... Jeanne, dans tous ses faits, en dehors du fait de guerre, était simple et jeune. Mais sur le fait de guerre, elle était très experte, tant dans le port de la lance que pour rassembler l'armée en ordre de bataille et pour préparer l'artillerie. Et de tout cela, tous s'émerveillaient qu'elle agissait de façon si prudente et avisée sur le fait de guerre, comme l'eût fait un capitaine qui aurait pratiqué 20 ou 30 années. Jeanne est donc un vrai chef de guerre, au dire d'Alençon. Mais vous pourriez me rétorquer, chers auditeurs, qu'on n'est pas à une légende près si on parle de Jeanne d'Arc, et qu'il est peut-être facile de se laisser prendre par les archives, surtout si elles sont rares. Mais s'il est vrai que Jeanne d'Arc est l'un des personnages les plus mythifiés de l'histoire de France, il est également vrai qu'on peut écrire une histoire de Jeanne d'Arc plus que beaucoup d'autres personnages d'histoire de France, parce que pour elle, il y a bien profusion et non pas rareté des archives. Nous allons donc pouvoir élucider ce mystère. Était-elle simplement un porte-étendard de l'armée de Charles VII ? Et quel est son véritable rôle dans la guerre de Cent Ans et dans la société de l'époque? Et pour cela, nous allons faire un petit peu d'histoire régionale. Nous recevons aujourd'hui Valérie Toureille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne médiéviste et vous venez de publier une biographie de Jeanne d'Arc aux éditions Perrin et qui vient donc de sortir en septembre. Alors je vais vous poser une question que tout le monde doit vous poser. Pourquoi écrire un énième livre sur Jeanne d'Arc alors qu'il en existe tant?
Effectivement, c'est une bonne question. Et d'abord, je l'aborde dans l'ouvrage, en préambule, parce que je n'avais pas moi-même, d'ailleurs, l'ambition d'écrire cette biographie mon éditeur ne m'avait pas incité à le faire. On est nombreux parmi les historiens à aborder Jeanne d'Arc avec beaucoup de prudence, et je reconnais que j'ai eu cette crainte, parfois aussi la tentation du renoncement, mais je suis très heureuse d'avoir pu gravir cet Everest biographique. Et j'aurai sans doute l'occasion, lors de cet entretien, d'expliquer toutes les ramifications ou tous les chemins qui m'ont conduit jusqu'à Jeanne.
Alors vous faites un travail d'historien, vous partez des archives, même si, alors normalement l'un ne devrait pas contredire l'autre, mais votre livre se lit très facilement et très agréable à lire, et des vrais passages très bien écrits, de très belle littérature. Vous êtes concentré sur les archives, et certaines archives en particulier, quelles sont-elles ?
Alors effectivement, on a tant écrit sur Jeanne d'Arc que j'ai d'abord et avant tout privilégié l'archive. Donc je suis revenue aux matériaux, et vous l'avez très bien souligné, ils sont nombreux, beaucoup plus nombreux d'ailleurs que pour bien d'autres grands personnages de la fin du Moyen-Âge, et ce matériau est complexe à manipuler, on pourra parler du procès, surtout du procès de réhabilitation, qui effectivement fait intervenir des témoins, des personnages qui ont croisé Jeanne d'Arc en réécrivant parfois quelque peu l'histoire, mais qui sont des documents et des témoignages qui sont d'une richesse extraordinaire.
Alors vous avez cherché à comprendre aussi la société de son temps, et pas la société forcément française dans sa globalité, mais en fait sa vie quotidienne dans son village de Domrémy, dans son village de Lorraine. Est-ce qu'il faut faire de l'histoire régionale pour comprendre Jeanne d'Arc ?
Pas seulement, mais en fait, on peut effectivement jouer sur les échelles, faire de la micro-histoire et puis après de l'histoire globale. En fait, il faut revenir un tout petit peu sur mon parcours et mes recherches. Ça fait un certain nombre d'années que je travaille sur la violence, en particulier la violence de guerre. Et j'ai publié il y a quelques années un ouvrage sur un seigneur lorrain qualifié d'écorcheur qui a justement une très grande proximité avec... je dirais plutôt la famille de Jeanne d'Arc avec Jeanne d'Arc elle-même. Donc, ma connaissance des archives de Lorraine a été effectivement un atout pour mieux comprendre cet environnement. Et puis, en retravaillant sur les témoignages des gens qui, dans son village, ont parlé d'elle, lui ont donné aussi une autre coloration, une autre dimension, plus humaine d'une certaine manière. Vous avez dit, il y a des gens qui imaginent que Jeanne d'Arc n'a même pas existé. C'est vrai, c'est des choses qu'on peut encore trouver au XXIe siècle, qui, moi, me sidèrent. Mais je crois qu'il était important aussi de lui redonner cette épaisseur humaine, de la replacer dans son environnement familial, son père, surtout sa mère. Et puis, j'ai eu à l'occasion de mes recherches la chance... Bon, c'est pas vraiment une chance. Quand on cherche dans les archives, on trouve en général ce que l'on je souhaite, mais là, il est vrai que je suis tombée sur une pièce qui était en lien avec ce seigneur lorrain que j'évoquais tout à l'heure, qui est un grand chef de guerre aussi sur la Lorraine, un document qui parle à la fois de l'oncle maternel de Jeanne d'Arc et des malheurs de la guerre qui frappent ces populations civiles, ces communautés villageoises. Et il était important, justement, de rappeler la présence de la guerre dans l'enfance de Jeanne d'Arc. On ne peut pas comprendre cet engagement-là sans rappeler des faits concrets, précis, qui se sont justement déroulés à Domrémy ou en Lorraine. Et puis, il y a l'histoire plus large, on va pas dire l'histoire nationale, mais l'histoire du royaume, qui doit aussi, lui, s'enchasser dans cette biographie, à savoir... Ben justement, les événements militaires qui ont conduit la France de Charybde en Scylla, d'échec en échec, de défaite en défaite, de ce chaos ambiant auquel se rajoute une dimension politique très importante. Après le traité de Troyes, on entre dans une sorte d'exception qu'on ne connaissait pas, en tout cas dans le Royaume de France, qui est la double monarchie. Donc le dauphin, l'héritier naturel, est écarté du trône. Et c'est un roi anglais qui contrôle les institutions, en particulier dans la partie nord du royaume. Donc tout cela était important pour, réagencer cette histoire de Jeanne, pour la replacer à la fois dans un environnement précis en Lorraine, et puis plus largement dans celui du royaume de France.
Alors vous dites, je me demande si c'est pas le titre d'un de vos chapitres, que Jeanne et ses proches, et finalement tout le royaume de France, sont des héritiers d'Azincourt. Cette bataille, cette défaite française a énormément marqué les populations. On a du mal parfois à comprendre dans quelle mesure la guerre était présente dans le quotidien de ces populations. Mais en fait, pour vous, cette bataille est déterminante. Pourquoi et en quoi ?
D'abord parce qu'elle rebat les cartes du jeu politique. J'ai évoqué tout à l'heure le traité de Troyes, mais on peut remonter quelques années en amont, et justement à Azincourt. Je lui ai consacré un ouvrage, non pas tant sur la bataille en elle-même que sur ses lendemains. Réaménagement des structures militaires, des cadres de l'administration, ces Armagnacs qui montent, ces nouveaux baillis que l'on nomme... Et effectivement, dans cette conscience collective, dans cette mémoire collective, le poids de la défaite. Il y a autour de Jeanne d'Arc des capitaines, des hommes de guerre qui sont peu ou prou des héritiers de la bataille. Pourquoi ? Parce que, en général, ils ont perdu un père, un frère, des oncles dans cette terrible défaite, qui a d'ailleurs aussi des incidences en Lorraine. Le duc de Bar meurt avec l'un de ses fils. À la bataille. Il y a donc aussi, sur le plan de la Lorraine et de l'histoire régionale, des nouvelles alliances politiques qui se dessinent. C'est pourquoi j'évoque cet héritage. Et vous évoquiez en introduction Jean d'Alençon, le duc d'Alençon, de par sa famille, a payé aussi un lourd tribut à Azincourt.
Alors, ça m'a surpris quand j'ai ouvert votre livre. Votre premier chapitre n'est pas naissance et jeunesse de Jeanne ou les origines, mais c'est Orléans. Vous parlez d'Orléans, du siège d'Orléans en 1429. Pourquoi ouvrir votre livre sur ce siège ?
C'est le moment emblématique. C'est celui qui va caractériser la figure de Jeanne. À partir d'Orléans, la libération d'Orléans, elle devient la pucelle d'Orléans. C'est le premier moment de sa geste qui est perçu comme le signe que tous attendaient. Il y a la question du signe qui revient souvent, qui reviendra souvent d'ailleurs dans ses interrogatoires. Elle dit qu'elle est portée par des voix, comme vous le savez, et ce qu'elle va défendre auprès du dauphin, c'est l'obtention d'une troupe pour délivrer la vie. L'année 1428, parce que le siège d'Orléans a débuté donc à l'automne 1428, l'année 1428 est une période très difficile. Difficile pour le dauphin qui s'est réfugié donc en-delà de la Loire. Et il y a en 1428 une double offensive sur la Lorraine. Vaucouleurs est prise en tenaille par les Anglo-Bourguignons et sur la Loire. Oui, les Anglais avaient déjà commencé en 1427, ça s'était pas très bien passé. Mais il faut absolument franchir la Loire pour mettre en difficulté le dauphin. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, pas seulement dans les élites politiques et militaires, mais peut-être que dans la population civile aussi, on a bien conscience que ce siège d'Orléans est quelque chose d'emblématique, est un moment emblématique.
Et puis, vous abordez néanmoins sa naissance. Vous dites que finalement, on sait beaucoup de choses sur Jeanne d'Arc proportionnellement au savoir qu'on a sur ses contemporains et les nobles de l'époque. Donc, Jeanne d'Arc, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, mais les légendes sont tenaces, n'était pas une bergère en haillons, comme a voulu le faire croire un peu le 19e siècle. Mais elle était la fille d'un notable de Don Rémy. C'est-à-dire qu'elle a eu quelle éducation ? Est-ce qu'elle savait lire et écrire ? Qui lui a transmis la foi ? Qui a mené un petit peu sa détermination ? Parce qu'elle devait avoir du caractère quand même pour aller voir les nobles, le roi et leur dire je vais vous apporter quelque chose et puis la solution presque à tous vos problèmes. Voilà, comment dans son enfance on trouve les germes de sa vie de guerrière ?
Alors, il n'y a pas que les germes de sa vie de guerrière, il y a aussi la foi, il faut la rappeler. Alors, il y a beaucoup de questions là qui sont posées. Il y a effectivement chez Jeanne une détermination extraordinaire pour laquelle, sans faire de la psychologie historique, il est difficile d'apporter une réponse. Certains individus naissent avec une volonté de faire, et Jeanne est née comme ça. Elle entend ses premières voix au moment, d'ailleurs, où le village est menacé. C'est le moment où son père, avec d'autres notables du village, vont négocier une protection. C'est-à-dire que lorsque le pouvoir politique est incapable ou trop lointain, eh bien, on va chercher des appuis où on peut. Et où vont-ils chercher cet appui ? Eh bien, auprès du seigneur Lorrain que j'ai bien étudié, Robert de Saint-Bruc. Donc, on doit payer. Hein, pour obtenir cette sauvegarde militaire, c'est terrible, mais c'est ainsi. Et c'est comme ça que Robert de Sarrebruck rencontre Jeanne d'Arc. Alors, il appartient effectivement à la notabilité villageoise. Sa maison, d'ailleurs, même si elle a été quelque peu remaniée, témoigne de cette assise sociale. Hein. C'est une jolie maison en pierre, avec au moins un étage. À part, je rentre pas dans les détails du grenier et autres, mais c'est une maison qui effectivement respire une certaine aisance économique. Non, c'est pas une bergère. En même temps, vous savez, au Moyen Âge, il n'y a pas de clivage social aussi marqué qu'on pourra les connaître à l'époque moderne et au-delà. C'est-à-dire que même cette petite fille issue de cette bonne famille participe aux travaux des champs, peut conduire aussi les bêtes lorsque c'est le tour de la famille d'Arc de les conduire à la pâture. Enfin, donc elle a travaillé aussi dans les champs et on imagine que Jeanne n'est pas une frêle jeune fille. Hein, si elle monte à cheval aussi facilement, bon, on pourra y revenir sur cette question épineuse. C'est que ben elle connaît effectivement ce monde rural, les animaux, etc. La question de savoir maintenant si elle est illettrée, si elle sait lire et écrire, est évidemment un point important qui a été débattu, qui reste encore d'ailleurs objet de débat. Il faut savoir que normalement, dans toutes les villes, c'est évident, mais dans tous les villages de quelque importance, il peut y avoir un maître d'école qui tient ce qu'on appelle une petite école. Et dans ces petites écoles, on apprend les rudiments de la lecture, ce qu'on appellerait le béaba. Et puis peut-être pour ceux qui sont un peu plus doués ou qui peuvent consacrer plus de temps aussi, les rudiments de l'écriture. Étymologiquement, et au sens médiéval du terme, être illettré, ça veut dire ne pas connaître le latin. Effectivement, Jeanne est illettrée de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'elle maîtrise le latin. Il aurait fallu qu'elle ait le temps de faire des études plus poussées et de toute évidence, ça n'était pas un choix personnel. En revanche, je suis persuadée qu'elle n'a pas appris à signer dans les quelques semaines qui ont suivi le début de son épopée. Il est normal que ce soit quelqu'un d'autre qui rédige les lettres, comme on le trouve très souvent au Moyen-Âge, même si on a des documents qui sont aussi, comment dirais-je, des documents... pour Robert de Sarrebruck, j'ai des lettres autographes, c'est-à-dire qu'il les a à la fois rédigées et signées, ce qui est rare pour un homme d'armes, hein, quand même. Mais la signature de Jeanne témoigne d'une certaine assurance dans l'écriture. Alors, bien sûr, elle a pu s'entraîner, mais on a des signatures de femmes de la noblesse qui sont beaucoup moins sûres que la sienne. Et puis, pourquoi cette importance de l'écrit chez Jeanne, si elle était incapable de lire et de comprendre l'enjeu de l'écrit, justement? Donc, à mon sens, elle maîtrise l'écriture et elle maîtrise évidemment la lecture. Donc, ça, c'est mon opinion. Après, elle peut encore être débattue, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui plaident en la faveur de cette maîtrise de l'écriture et de la lecture. Au moment de son procès, d'ailleurs, lorsqu'elle sera enfermée et seule dans sa cellule, elle va demander à lire des pièces du procès. Donc là, elle ne bénéficie d'aucune aide. Je vois pas pourquoi elle aurait demandé à lire des documents qu'elle aurait été incapable de lire. Dans la détresse dans laquelle elle se trouvait, je pense qu'elle avait d'autres urgences que ça, si elle était impuissante face à l'écriture.
Et ce qui est assez troublant d'ailleurs dans les actes du procès, on peut invoquer plusieurs causes, c'est la pertinence de ses réponses qui sont d'une grande intelligence. On sent qu'elle est structurée, elle sait penser, elle sait réfléchir, elle sait argumenter, elle connaît presque la rhétorique. Comment vous expliquez, on a l'impression, cette culture de Jeanne, au moins, en moins dans son langage?
Oui, alors... Il faut faire attention aussi au fait que on a un double filtre hein, dans les documents du procès qui nous sont parvenus, la Minute française en particulier. Il a fallu faire une traduction. Ce sont des mots que l'on a aussi médiatisés par l'écrit, donc qui ont édulcoré une partie de la vivacité des échanges. Mais vous avez raison de dire que c'est une jeune fille qui démontre à la fois un aplomb, une capacité à répondre avec beaucoup de bon sens. Et c'est très frappant. Au fond, elle lutte face à ses juges comme elle a lutté aussi sur les champs de bataille. Donc ça, c'est troublant et fascinant à la fois. Comment l'expliquer ? Eh bien, on évoquait la détermination de Jeanne tout à l'heure. C'est vrai que très jeune, déjà, elle avait une idée très précise de ce qu'elle voulait faire. Déjà, à commencer par ne pas vouloir se marier pour s'engager sur une autre voie contre la volonté de ses parents.
Oui, parce qu'à son âge, enfin à l'âge où elle commence son épopée, si on peut parler comme ça, elle est censée se marier et puis voilà, avoir une vie entre guillemets tranquille à Don Rémy. Et dès le début, elle dit à ses parents : j'ai une autre destinée.
Alors, on ne sait pas très bien ce qu'elle a dit à ses parents. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont contracté une promesse de mariage, ou peut-être est-on allé jusqu'aux fiançailles, qui est une promesse en soi, qui juridiquement engage la famille. Il est logique aussi que ce soit la famille qui s'en charge, comme souvent. Ce qui prouve aussi que les parents ont à cœur de lui trouver un bon parti. Vous savez qu'elle sera obligée de se rendre devant l'officiel de Toul hein, pour dire qu'elle n'a jamais contracté cette promesse-là et qu'elle n'avait engagé que ses parents. Donc c'est vrai qu'à 17 ans, bon nombre de jeunes filles de la noblesse, mais aussi de la paysannerie, sont mariées, voire mères. Donc c'est aussi l'objet de ce nom qu'on lui donne très vite, hein, celui de la pucelle.
Elle décide de sauver la France, tout simplement. Elle cherche à rencontrer le capitaine de Vaucouleurs. Alors, comment on peut comprendre qu'une telle société, avec une hiérarchie assez installée, ait écouté, entendu et décidé, certains guerriers, certaines élites ont décidé de faire confiance à Jeanne, qui sortait un petit peu de nulle part, finalement. Pourquoi on a décidé de faire confiance à une pucelle, comme on dit?
Alors, déjà, il faut rappeler que ce sont ses voix qui lui ont commandé de délivrer la France. Alors, pas textuellement, hein. Bon. En tout cas, de défendre le parti du dauphin, de libérer Orléans, de prendre les armes pour cela. Ce qui l'a d'ailleurs effrayé dans un premier temps. On l'aurait été à moins. Si elle se rend auprès de Baudricourt, hein, Robert de Baudricourt, hein, qui tient effectivement la châtellenie de Vaucouleurs, c'est parce que c'est le seigneur qui est en charge d'une partie du village de Domrémy. On a tendance à dire que Vaucouleurs est une place. Non, c'est un territoire qui englobe la moitié du village de Domrémy. C'est donc, d'une certaine manière, assez naturellement qu'elle va le trouver. C'est aussi assez naturellement qu'elle va s'adresser à l'un des représentants du dauphin sur cette frontière-là, la frontière occidentale du royaume. Hein. On est là, tout près du barrois mouvant, mais la châtellenie de Vaucouleurs est une terre française. D'une certaine manière, au-delà de tous les débats qui ont eu lieu sur l'appartenance régionale de Jeanne, est-elle champenoise, est-elle lorraine, j'ai même entendu dire est-elle vosgienne, j'aurais presque tendance à dire par provocation, non, elle est française. Juridiquement parlant, elle est française. Mais bon, bien sûr, elle appartient à l'espace lorrain au sens large du terme, cette Lorraine romane. Et elle va donc trouver Baudricourt. Comme vous le savez, on ne sait pas très bien si elle est allée une fois ou deux ou trois fois à Vaucouleurs. Là encore, sans en parler à ses parents, je pense qu'il y a une proximité avec sa mère. On évoquait tout à l'heure sa formation. C'est elle qui l'a formée, comme toutes les mères, aux premiers exercices de la foi, qui l'a initiée à la piété chrétienne. Il y a d'ailleurs des hommes d'église, hein, dans la famille de Jeanne, faut pas l'oublier. Donc ce lien avec la mère, je pense, est beaucoup plus étroit et c'est assez naturel. Son père a sans doute entendu ses désirs, elle en a sans doute fait part au sein de la famille, mais on sait bien qu'il a très peur qu'elle s'engage dans le sillage des armées. Les hommes du Moyen-Âge savent bien qu'il y a des femmes qui suivent les hommes de guerre, hein. Mais pour des...
Pas pour les mêmes raisons.
Non,
que
pour des vocations bien moins pieuses. Donc on peut comprendre la crainte du père, hein, qui est prêt à dire il vaut mieux la noyer qu'elle suive les hommes de guerre. Après, il est aussi logique que Baudricourt ne l'ait pas reçu, je dirais, à bras ouverts et dans les meilleures dispositions. J'évoquais tout à l'heure la position de Vaucouleurs. Il y a en Lorraine des hommes qui tiennent pour le parti du Dauphin, qui avant tenaient pour le parti d'Orléans, qu'on a appelé parti d'Armagnac. Robert de Sarrebruck, qui tient Commercy, qui est une place forte, puissante, hein, et lui est puissamment armé aussi, est en lien avec Robert de Baudricourt. Ces hommes-là n'ont, comment dirais-je, aucune inclination particulière pour Jeanne d'Arc et sa famille. C'est presque le contraire, ils sont trop proches de cette jeune fille et de sa famille pour lui accorder une quelque importance. Et puis, Robert de Baudricourt, c'est un homme de guerre du XVe siècle. Bon, c'est normal qu'il ne s'en laisse pas compter. Il y a cet épisode où on dit d'ailleurs, il faut que tu retournes chez toi et que ton père te donne une bonne paire de claques, plutôt que de venir m'importuner. J'évoquais 1428, hein, Robert de Baudricourt a autre chose à faire que de s'occuper de cette jeune fille alors que les ennemis menacent sur les frontières. Et pourtant, même les hommes de guerre les plus chevronnés, les plus rudes, sont peut-être sensibles au message divin. Au Moyen-Âge, les hommes et les femmes sont sensibles aux signes ce qu'on pourrait appeler le merveilleux. Il y a donc une petite porte d'entrée qui a sans doute facilité cette première connexion avec Baudricourt. Mais à mon sens, et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, ça n'est pas le lien avec René d'Anjou qui, justement, à la suite d'Azincourt, se retrouve par mariage lié à au duché de Lorraine. Ça n'est pas non plus sa mère qui ont dû favoriser ce rapprochement ou cette entrevue entre Baudricourt et Jeanne. Je pense plutôt que, et j'en suis même persuadée, il y a des courriers très réguliers qui sont échangés entre tous les officiers et le dauphin. Évidemment, Baudricourt est en lien avec avec Charles. La preuve en est que au moment où Baudricourt la reçoit pour la dernière fois et lui accorde sa confiance, il y a un homme à ses côtés dont on parle peu, c'est Colette Vienne. Colette Vienne, c'est un messager du dauphin. Et Baudricourt a sans doute échangé avec avec Charles pour lui dire « Il y a une jeune fille dont on parle beaucoup dans la région et qui prétend qu'elle pourrait être un atout ou un appui. » Et sans doute que Charles lui dit « Banco hein, », c'est un peu anachronique mon expression, mais « Je n'ai rien à perdre hein, à écouter cette jeune fille, d'autant que c'est un moment, je l'ai expliqué, compliqué, voire chaotique sur le plan politique. Hein, et les grands ont l'habitude d'écouter des prophétesses. Il y a aussi cette prophétie qui dit « C'est une femme venue de Lorraine qui sauvera le royaume de France qu'une autre femme a perdu. » On revient au traité de Troyes.
Le dauphin, alors il y a quelque chose d'assez particulier, je trouve, dans la vie de Jeanne, dans son épopée, dans son aventure, c'est sa relation avec le dauphin, avec le roi. On a l'impression qu'à un moment, il la soutient, à un moment, il la laisse tomber, à un moment, il ferme les yeux. Concrètement, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il attendait d'elle, s'il l'appréciait, s'il a voulu la sauver, voilà, dans toute la continuité de leurs échanges?
Alors c'est un personnage que je suis de près depuis que je m'intéresse justement à la question de la Lorraine et de la politique en général autour d'Azincourt et ses lendemains. Contrairement à ce qu'on a longtemps dit, Charles VII est un personnage beaucoup plus complexe. Ça n'est pas cette figure un peu pâle et dominée, même si il est difficile de présenter une seule face du personnage, tant il est complexe aussi. Une chose est sûre, c'est un cynique, si je puis dire, en politique. Et la réelle politique est quelque chose de très important pour comprendre ses choix, ses reniements, ses avancées, ses reculs.
Donc c'est pas comme parfois on a l'impression de la faiblesse ou juste une envie de voilà, il veut jouir, il veut profiter de la vie, il se désintéresse du royaume de France. En fait, il a une vraie politique qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la réelle politique.
Sa vie ne forme pas un tout. Ça ne l'empêche pas d'aimer les plaisirs et les fêtes, mais au moment qui nous intéresse, Charles a bien conscience que sa position est fragile et qu'il faut à toute force rétablir l'équilibre, ou au moins la balance des forces. Et il est normal qu'au Moyen-Âge, on a d'autres exemples, qu'il puisse lui accorder audience. Il se dit qu'effectivement, elle pourrait être un atout dans son jeu. Il est en même temps très prudent. Hein. Bon, il y a l'épisode de la rencontre de Chinon, elle le reconnaît. Bon, peut-être un peu construit, bon, mais à la limite, peu importe. Il va quand même lui faire passer un certain nombre d'épreuves, enfin, je veux dire des interrogatoires, même si le milieu est bienveillant. Hein, à Poitiers, pendant plusieurs semaines, on va l'interroger pour savoir s'il s'agit bien d'une vraie prophétesse, si elle est pure, comme elle l'affirme, puisque pour les hommes du Moyen-Âge, la pureté de la parole, de l'âme, est directement liée à la pureté du corps. Donc, il ne lui donne pas son viatique tout de suite. Il va attendre quelque temps avant qu'elle revienne et fasse son entrée solennelle à Chinon pour qu'il lui confie, donc effectivement, une petite troupe, quelques hommes en fait autour d'elle qui sont aussi bien chargés de veiller sur elle que de la suivre, d'écouter, de rapporter auprès du dauphin ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Donc Charles VII est un personnage complexe aussi parce qu'il n'a pas une conduite linéaire. Elle lui apporte la victoire presque inattendue à Orléans. Il la récompense, hein, il lui donne de l'argent, il lui donne des coursiers, des chevaux. On le sait, il va aussi anoblir sa famille, plus tard adouber un de ses frères. Donc il y a bien cette reconnaissance-là. Elle va d'ailleurs pousser un peu plus loin son avantage, qui n'est pas un avantage personnel, faut bien le reconnaître, lorsqu'elle lui dit qu'il faut continuer la campagne de la Loire et prendre les autres places que tiennent encore les Anglais, et puis l'emmener jusqu'à Reims. Et là, elle va au fond un peu se battre au sein du conseil, comme d'ailleurs elle s'était battue à Orléans, hein, au sein de l'état-major, où les hommes de guerre, on n'a pas eu le temps de les évoquer, mais pas forcément tous des partisans fervents de Jeanne, hein. Et c'est normal d'une certaine manière. Alors on pourra dire oui, on a reconstruit cette adversité dans laquelle elle a dû se battre, y compris dans son propre camp. Certes, mais à force de tout déconstruire, il ne reste plus grand-chose. Donc elle a dû faire sa place et elle a dû faire valoir aussi auprès du dauphin certaines options. Donc elle arrive à le convaincre d'aller jusqu'à Reims, c'est une nécessité qu'elle sacre. Au-delà du couronnement, qui est ancien déjà. Mais c'est vrai qu'après, lorsqu'elle veut pousser les troupes jusque sous les murs de Paris, le dauphin est beaucoup plus réticent. Enfin, on pourrait déjà plus l'appeler le dauphin. Moi, j'ai toujours tendance à l'appeler le dauphin, même après 1422, pour attendre le sacre. Mais enfin, bon, peu importe les noms, il est couronné en 22. Charles VII, en tout cas, n'est pas très favorable à la prise ou au siège de Paris. Objectivement, le morceau était dur à emporter. On peut lui accorder ce crédit, hein, que politiquement, militairement, c'était quand même trop difficile d'emporter Paris. Mais après cet échec parisien, il va franchir à nouveau la Loire et licencier l'armée. C'est cette première divergence qui marque effectivement non pas l'échec complet de ce qui va suivre. Elle va encore prendre la Charité-sur-Loire, hein. Elle va buter sur la Charité, mais elle va prendre Saint-Pierre le Moutier. Mais c'est effectivement le moment où leur chemin semble se séparer.
On a l'impression, en effet, qu'entre Charles VII et Jeanne, il y a un homme qui analyse, qui est un petit peu méfiant, patient, parfois réticent à lancer l'attaque, et une Jeanne pleine de fougue idéaliste, qui a des ordres venus du ciel, comme elle le dit, et qui est prête, à partir du moment où on lui dit « vas-y, tu vas gagner », elle veut se lancer. C'est assez intéressant de voir aussi comment ce moment de la guerre a été, quelle tournure il a pris en fonction de si c'est Jeanne qu'on a écouté ou le dauphin Charles VII. À partir de vos archives, comment est-ce qu'on peut comprendre, imaginer Jeanne au milieu de cette armée d'hommes, je sais pas si ce que vous disiez, mais un petit peu, on les imagine un peu rustres, un petit peu lassés de la guerre, ils ont envie, on leur demande d'obéir à une femme. Comment elle se fait? Est-ce qu'elle se fait respecter? Est-ce qu'elle se fait écouter? Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on admire sa piété. Comment elle trouve sa place, Jeanne? Est-ce que aussi elle doit avoir des bons amis sur qui elle peut se reposer?
C'est une part effectivement un peu mystérieuse, même si on peut lever le voile sur quelques aspects des questions que vous avez évoquées. Elle trouve très facilement, presque étonnamment, des soutiens auprès de certains hommes de guerre. On a évoqué le beau duc, Jean d'Alençon.
Il lui fait confiance tout de suite, Jean d'Alençon,
oui.
Dès qu'il la voit.
Oui. Mais il y a aussi le bâtard d'Orléans, qu'on appellera plus tard Dunois, qui est aussi une des grandes figures militaires de ce XVe siècle. Plus étonnant encore, Lahire. Alors, s'il y a un homme peu versé dans la religion, c'est bien Lahire. Bon, en même temps, c'est un chrétien de son temps, hein, il n'est pas non plus agnostique, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'il est peu sensible aux choses de la religion. Et il y a, c'est vrai, entre deux, une sorte d'amitié qui est très forte. Donc, comment est-ce qu'elle a pu trouver sa place là? Quand on lit les témoignages, là encore, même avec la part de reconstruction, certains disent, même Jean d'Alençon, Louis de Coutes, Jean d'Aulon, tous ces hommes qui sont autour d'elle, disent effectivement, lorsqu'on voit Jeanne, même parfois lorsqu'elle retire son armure, elle ne la retire pas souvent, elle le dit justement qu'elle se méfie, mais lorsqu'elle la retire, ou parce qu'elle est blessée et qu'il faut la panser, ils entreaperçoivent le corps de Jeanne. Et ils le disent, nous étions des hommes jeunes et troublés, et en même temps, très vite, sa piété nous a refroidis, ou sa piété nous a imposé le respect. Et on peut croire assez volontiers que ces hommes peuvent être aussi fascinés par le courage que déploie cette femme, parce qu'elle dit qu'elle est portée par la foi. Donc, d'une certaine manière, peut-être sont-ils forcés de croire, incités à croire, et c'est cette piété qui leur en impose. Elle doit effectivement parfois s'imposer hein, dans ses armées, ça doit être rude. On sait bien qu'elle rudoie un certain nombre d'entre eux, il a hier le premier qui jure plus souvent qu'à son tour. Elle chasse les prostituées, on parlait de ces femmes qui suivent les armées, il y en a beaucoup. Et elle veut faire de cet espace viril, brutal, peu propice aux femmes, un endroit où la religion doit porter l'action militaire par la pureté de sa vocation, de sa mission.
Oui, il faut bien imaginer que même si ce sont des rustres, la société est chrétienne, et donc si elle reprend, elle est très réticente aux jurons et aux blasphèmes. Vous venez de l'exprimer. Elle finit par convaincre, en fait. Parce que c'est une évidence que oui, il y a Dieu et que oui, il y a des règles et que finalement, elle a peut-être un petit peu raison d'après, même si c'est un petit peu contraignant de se soumettre aux lois de l'Église.
Et puis les gestes sont là, ou plutôt les faits sont là, c'est-à-dire que je pense que son courage dans la bataille, lorsqu'elle emmène les hommes, les surprend et les fascine. Et au fond, c'est quand même elle qui donne cette impulsion pour prendre plusieurs bastilles et puis dégager Orléans de l'étau anglais. Donc, elle a donné des signes forts qu'elle avait raison et qu'elle est portée par cette mission-là. Il faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, par exemple, lorsque deux armées s'affrontent en bataille rangée, celui qui va l'emporter a été celui que Dieu a choisi, comme une forme d'ordalie. Donc celui qui remporte la bataille est protégé par Dieu, voire inspiré par Dieu dans le cas de Jeanne.
Et c'est d'ailleurs une des questions du procès où un de ses accusateurs va lui demander « Mais est-ce que Dieu aime les Anglais ?» Pour la piéger, qu'est-ce qu'elle répond ?
Bah, elle essaye de botter en touche hein, le plus souvent, parce qu'elle sait très bien que ses ennemis sont les Anglais, qu'ils tirent la ficelle du procès, même si, confrontée à ses juges, Jeanne a sans doute parfois été un peu perdue. Donc, elle dit clairement, les Anglais n'ont rien à faire sur le sol de France. Pour les Bourguignons, où on essaie de la perdre aussi, elle dit, au fond, il vaudrait mieux tenter la réconciliation des princes, hein, autrement dit, entre Charles et Philippe. Mais elle est très habile, très très habile.
Le procès, on va en venir, puisque donc Jeanne est capturée. Alors ce procès, est-ce qu'il est ecclésiastique? Est-ce qu'il est mené par les Anglais? Est-ce que finalement il est un petit peu manigancé quand même par des proches du roi? Comment on peut le définir, ce procès qui a l'air d'être long, compliqué, et on a l'impression que beaucoup de personnes y ont pris part?
Alors déjà, on peut répondre très clairement que personne dans l'entourage du roi n'a manigancé ce procès. Même si, comme je le disais tout à l'heure en évoquant l'état-major militaire, il y a aussi autour du roi des hommes qui, des conseillers, qui ne sont pas franchement favorables à Jeanne, ou semblent l'ignorer, ou se disent qu'après tout, c'est une façon de perturber le jeu politique qu'ils maîtrisent depuis un certain nombre d'années. Une empêcheuse de tourner en rond, pour dire les choses clairement. Il y a deux hommes d'ailleurs qui mènent une lutte acharnée autour de Charles VII, qui vont brouiller là encore le paysage politique, sans doute aussi détourner Charles de l'appui qu'il aurait pu lui apporter. En même temps, il ne faut pas oublier que maintenant qu'il est sacré, de voir son sacre à une femme que les Anglais dénoncent comme une femme de mauvaise vie, voire comme une sorcière, le déstabilise politiquement aussi. Non, c'est un procès qui est ambigu sur deux points. Le statut de Jeanne est normalement celui d'un prisonnier de guerre. On a d'ailleurs retrouvé un document anglais où elle est nommée comme prisonnière de guerre. Lorsqu'on est prisonnier de guerre au Moyen-Âge, on a un statut spécifique qui est celui de pouvoir être racheté sur rançon. Il y a d'ailleurs une rançon qui est payée. Sauf que une fois la rançon payée, Jeanne n'est pas libérée, ce qui devrait être le cas. En fait, ce sont ces juges, hein, Cochon, qui va racheter donc par le biais du roi d'Angleterre, hein, qui va racheter donc Jeanne pour être jugée. Et on va lui faire donc un procès d'église en inquisition. Donc vous voyez que là, il y a déjà une espèce de discordance entre son statut et l'incrimination, plutôt le profil du procès qu'on va lui intenter. Si on est dans un procès d'église, elle aurait dû être détenue dans une prison d'église. Ce n'est pas le cas. Comme vous le savez, elle est détenue par les Anglais dans le château de Bouvreuil à Rouen. Donc ces éléments sont très déstabilisants. Ils vont d'ailleurs être repris lors du procès en nullité pour dire que effectivement il y a eu des écarts par rapport à la procédure que l'on aurait dû suivre au moment du procès. Pour autant, Pierre Cochon, qui est le maître d'œuvre de ce procès, qui est effectivement très proche des Anglais, depuis le traité de Troyes d'ailleurs, il est là. Cochon mène la danse pour ses alliés anglais. Il y a aussi un autre allié de poids qui va fournir presque tous les arguments juridiques au procès, c'est l'Université de Paris. Tous les docteurs en décret en droit canonique qui sont à Paris vont être intimement liés au procès. Certains vont d'ailleurs être sollicités pour valider la condamnation de Jeanne. Donc faut pas l'oublier aussi. Il faut pas non plus oublier qu'à Paris, ce sont les Anglais qui sont maîtres. Et l'Université de Paris se dit qu'après tout, elle a tout intérêt à servir ses intérêts en suivant le pouvoir anglais. Donc c'est cette configuration politique un petit peu compliquée qu'il faut essayer de comprendre pour analyser ce procès. Maintenant, soyons clairs, les Anglais veulent son élimination pure et simple, et il n'y a pas meilleur procès pour manipuler l'incrimination qu'un procès d'inquisition.
Et pourquoi les ecclésiastiques veulent son élimination ?
Parce que ce sont des hommes qui doivent pour une part leur prébende aux Anglais. N'oubliez pas que la Normandie est occupée depuis 1417 et que, ma foi, mis à part les campagnes dont on n'a pas beaucoup parlé parce que Jeanne appartient à un autre courant qui est sous-jacent pendant toute cette période-là, la première moitié du XVe siècle, à Rouen, l'élite religieuse s'entend fort bien avec l'élite politique anglaise.
Et puis,
Cochon a une mission, hein, c'est d'éliminer Jeanne d'Arc. Parce que ce qui est très étonnant, on parlait tout à l'heure de ces hommes du Moyen-Âge qui sont attentifs aux signes. On a plein d'éléments qui nous montrent que les Anglais sont très superstitieux. Il y a des désertions qui se sont multipliées hein, depuis que Jeanne intervient. C'est vrai, ils l'injurient, ils se moquent d'elle, mais ils ont peur d'elle aussi. Hein, une espèce de peur complètement, évidemment, irrationnelle. Mais eux aussi hein, sont baignés dans ce même merveilleux. Donc il faut à toute force éliminer Jeanne.
Et on peut comprendre qu'elle fasse peur, parce qu'au début, les Anglais ont dû se dire c'est une prophétesse. Bon, elle parle de Dieu, elle dit qu'elle vient de Dieu, et puis voir qu'ils perdaient du terrain quand même. Donc peut-être pour assurer leur religion aussi, puisque les Anglais ont la même foi que les Français à cette époque. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé assez frappant et que vous dites dans votre conclusion. Jeanne est une fille du peuple qui a été un personnage secondaire pour les grands du royaume, mais toujours vénérée par ceux de son milieu. Depuis le début de sa mission, Jeanne a une place particulière dans la mémoire de Lorraine et dans la mémoire de France.
Même pas dans la mémoire, dans la réalité du XVe siècle. C'est-à-dire que dès le départ, on évoquait tout à l'heure vos couleurs, elle trouve des appuis, elle trouve des partisans, des fervents partisans. À vos couleurs, les habitants se mobilisent pour lui apporter des vêtements, un cheval. À chaque fois qu'elle se déplace, il y a une ferveur populaire autour d'elle. Et ça, c'est très, très marquant. Ceux qui vont aussi porter sa vénération et même la commémoration de la libération d'Orléans, ce sont les gens du peuple, et les femmes d'ailleurs en particulier. Les femmes sont fascinées. Les témoins le disent d'ailleurs, les femmes cherchent à la toucher. Alors, elles s'en moquent un peu, elles disent « Oh, c'est des croyances de bonnes femmes ». Elle a un côté très très rude aussi. Elle finit par avoir un côté un peu rude et elle dit « Bon, ça, ce sont des trucs de bonnes femmes ». Mais il y a effectivement autour d'elle une vraie ferveur populaire, un soutien de ces gens du peuple qui vont, au fond, toujours lui accorder leur confiance.
Qu'est-ce que ça nous dit sur l'histoire des mentalités du XVe siècle ?
Beaucoup de choses. Que la population civile a résisté envers et contre tout. Parfois, lorsque les élites collaboraient, il y a des gens qui sont entrés en résistance. J'évoquais le cas de la Normandie, où ils ont été très très nombreux à prendre le maquis dans les forêts pour essayer de résister aux Anglais en harcelant les convois. À sa manière, elle appartient aussi à cette forme de résistance populaire. Si elle s'est dressée contre les Anglais, c'est bien que dans le peuple, on avait envie que la paix revienne, et la paix avait une condition sine qua non, c'était l'évacuation du territoire par les Anglais. Donc c'est vrai que il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur la force de ces populations civiles, écrasées par le poids de la guerre et ces violences, la violence des soldats, contre laquelle ils se dressent parfois. On a des paysans d'ailleurs qui mettent à mort des soudards excédés par ces violences répétées. Donc il y a cet élément de la, comment dirais-je, de la conscience populaire qui est important à souligner. Il y a un autre élément dont Jeanne témoigne à sa manière, c'est cette piété populaire aussi qui est faite de rites autour d'un arbre que l'on vénère, et que les prélats parisiens et normands ne comprennent pas, une espèce de hiatus entre cette piété populaire qui est faite de gestes, parfois de vieilles réminiscences anciennes dont on a perdu les racines, mais qui est très importante pour vivifier toujours ce sentiment religieux dans la communauté. Donc ça, c'est important. Et puis sans doute aussi l'idée que il y a un lien parfois direct avec la religion, ce que les clercs appellent l'Église triomphante, qui les éloigne parfois de ce qu'on appelle l'Église militante, c'est-à-dire l'institution. C'est quelque chose qui va revenir très souvent au moment du procès. Vous devez respecter le clergé et pas seulement vous référer à l'Église céleste. Voilà, c'est un moment qui témoigne aussi d'une piété qui est en train de changer à la fin du Moyen-Âge.
Oui, Jeanne d'Arc est très pieuse et pourtant elle se méfie du clergé. Comme quoi les choses sont plus complexes.
Alors elle se méfie d'une partie du clergé. Elle est très attachée au curé de sa paroisse et d'autres, des servants bien sûr. Mais elle sait que ce clergé-là en tout cas n'est pas forcément celui qui accorde ou à qui Dieu accorde sa confiance, en tout cas.
Merci beaucoup, Valérie Toureille.
Je vous en prie.
De nous avoir parlé de Jeanne d'Arc. On a vu une facette un petit peu différente. Et puis, chers auditeurs, je vous recommande, de lire la biographie de Valérie Toureille, Jeanne d'Arc, qui vient de sortir chez Perrin. Et vous aurez le loisir de lire des extraits d'archives, ce qui est toujours très intéressant et ce qui permet de mieux resituer cette Jeanne dans son contexte historique, social, politique, et puis de découvrir un petit peu une frange d'histoire de Lorraine dont vous êtes spécialiste, Valérie Toureille. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.